Aude Mirkovitch et Marguerite Duchaffaut. Bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs et présenter également l'association que vous représentez, Association Juriste pour l'Enfance?
Alors, moi, je suis Marguerite Duchaffaut, je suis chargée de communication de l'Association Juriste pour l'Enfance et je suis avec Aude Mirkovitch, qui est directrice juridique de l'association et qui est maître de conférences en droit privé et auteur de nombreux ouvrages, comme par exemple PMA, un enjeu de société, édité chez Arthège en 2018, mais aussi En rouge et le noir, première partie, donc édition première partie, et un autre livre à paraître qui s'appelle Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents, qui sera édité chez Arthège également. Aude, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus l'association? C'est une association qui défend et protège les enfants sur le terrain du droit. Vous menez des actions en justice. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, d'action en justice quand le droit des enfants n'est pas respecté?
Eh bien, en effet, nous agissons devant les tribunaux. Et par exemple, nous avons déposé des plaintes contre le salon Désir d'enfant qui s'est tenu à Paris 2 années de suite et à l'occasion duquel étaient invitées des sociétés étrangères de gestation pour autrui qui venaient proposer leur service de gestation pour autrui aux Français.
Vous menez aussi des actions auprès des parlementaires et des décideurs publics. Vous apportez une expertise juridique. Est-ce que vous avez un petit exemple de vos dernières actions auprès des parlementaires?
Alors oui, nous assistons, nous apportons un éclairage aux parlementaires dans le cadre des débats parlementaires, à l'occasion de la discussion des projets et propositions de loi, et puis également des décideurs publics, hein, quels qu'ils soient. Par exemple, cette année, eh bien, nous sommes intervenus auprès du ministère de l'Éducation nationale à propos d'un test qui s'appelle EvaLang, qui est proposé à tous les collégiens dans le cadre du brevet des collèges. Et ce test, eh bien, demandait aux collégiens de cocher la case « Es-tu un homme, garçon, fille, autre ?» Et là, nous sommes intervenus et le test a été corrigé et s'est contenté de poser la question aux jeunes « Es-tu un garçon ou une fille ?» Ce qui est amplement suffisant.
Donc vos actions portent du fruit, c'est important de le noter.
Nous essayons.
Alors, le troisième volet des actions de Juriste pour l'Enfance, c'est aussi d'enrichir le débat public. Vous publiez des travaux, des livres, vous organisez des colloques.
Oui, tout à fait. Eh bien, vous l'avez évoqué, donc nous avons un ouvrage collectif qui sort début octobre sur les questionnements de genre chez les enfants et adolescents, donc qui réunit des professionnels, médecins, juristes, psychologues, directeurs d'école, pour faire un petit peu le point sur la demande d'un jeune d'être identifié dans le sexe opposé. Et puis nous organisons en novembre un nouveau colloque sur les violences sexuelles entre mineurs. Voilà, pour réunir des professionnels, apporter leur expertise aux personnes qui s'occupent des enfants.
Très bien, merci beaucoup. Donc, vous êtes vraiment sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, dans cette émission, nous sommes là pour faire un point sur la situation par rapport à la loi de bioéthique qui a été votée le 2 août 2021, donc il y a un peu plus d'un an. Cette loi, on en a beaucoup parlé. On a surtout retenu la mesure phare qu'elle contenait, qui était l'ouverture à la PMA pour toutes les femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire, Aude Mirkovitch, un an plus tard, qu'est-ce que la loi a changé concrètement?
C'est vrai que les débats parlementaires ont duré des années. Alors à la fin, on s'y perdait un petit peu, hein, avec les allers-retours entre les différentes commissions et les différentes assemblées. Donc pour dire les choses de façon un petit peu schématique, la mesure phare, en effet, c'était l'extension de la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Il y a eu également la levée possible de l'anonymat du donneur à la majorité de l'enfant issu d'une PMA avec donneur, on y reviendra. Également, la loi a autorisé l'autoconservation des gamètes et en particulier des ovocytes pour le cas où la personne voudrait faire une PMA plus tard, donc sans motif médical. Et puis également, la loi a introduit la possibilité de fabriquer des embryons chimères en introduisant des cellules souches humaines dans des embryons animaux. Il y a également eu tout un volet d'assouplissement encore, si je puis dire, de la recherche sur l'embryon. Voilà, ça, ce sont vraiment les mesures principales, de façon vraiment très rapide.
Alors, on comprend qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses dans cette loi. On l'a dit tout à l'heure, la mesure phare, c'était la PMA ouverte aux couples de femmes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste la PMA et est-ce qu'il y a des différents types de PMA?
Oui, alors, eh bien, en effet, la procréation médicalement assistée, ou PMA, c'est l'ensemble des techniques qui organise la conception d'un enfant en dehors du processus naturel, c'est-à-dire concrètement en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Il s'agit de l'insémination artificielle d'une femme ou alors de la fécondation in vitro, qui, comme son nom l'indique, organise la rencontre des gamètes, des ovocytes et spermatozoïdes, en laboratoire, in vitro, les embryons obtenus étant ensuite transférés dans l'utérus d'une femme en vue de leur naissance.
Alors, quelles sont les personnes qui ont accès à cette PMA ?
Alors, la loi, justement, a changé sur ce point, parce que jusqu'à la loi de 2021, la PMA poursuivait, en droit français, un objectif thérapeutique. Elle visait à compenser une infertilité pathologique, donc médicale. Et en conséquence, la PMA concernait des couples composés d'un homme et d'une femme, vivants et en âge de procréer. Bah, tout simplement parce que l'incapacité à procréer des personnes seules, des couples de même sexe, ou des trop jeunes ou des trop âgés, eh bien, cette incapacité à procréer n'est pas pathologique. Elle est naturelle, elle est normale, et elle n'a pas vocation à être prise en charge par la médecine dans une perspective thérapeutique. En 2021, la loi a changé l'objectif de la PMA et aujourd'hui, le Code de la santé publique dit que la PMA vise à répondre à un projet parental. Donc on oublie l'exigence d'une infertilité pathologique et du coup, eh bien, a accès à la PMA un public beaucoup plus large. Tout d'abord, les couples hommes-femmes, y compris les couples fertiles. Et puis surtout, c'est ça qui a donné lieu à beaucoup de débats, hein, mais c'était un petit peu la partie visible de l'iceberg, les couples de femmes et les femmes célibataires.
Et donc on arrive forcément à une PMA avec un donneur.
Oui, tout à fait. La PMA avec donneur, c'est la procréation médicalement assistée qui utilise les gamètes, donc soit les ovocytes, soit les spermatozoïdes, d'un ou plusieurs donneurs. Elle était déjà autorisée sous l'empire de la loi ancienne, au profit d'un couple homme-femme infertile qui ne pouvait pas fournir lui-même les gamètes nécessaires à la conception d'un enfant. Mais la loi exigeait que l'enfant soit relié génétiquement à au moins un des deux parents. Donc on pouvait recourir à un donneur dans la branche paternelle ou dans la branche maternelle, mais pas les deux en même temps. Et là, la loi de 2021 a complètement généralisé le recours à des donneurs, parce que la PMA pour les couples de femmes ou la PMA pour une femme célibataire, c'est toujours une PMA avec donneur, parce qu'il faut quand même toujours les spermatozoïdes d'un donneur homme. Et puis, en même temps, la PMA avec donneur est généralisée pour tout le monde, parce que les couples hommes-femmes peuvent également demander à recourir à un ou des donneurs. On peut aujourd'hui concevoir des enfants issus de donneurs des deux côtés.
Comment ça se passe juridiquement ? Est-ce que c'est comme une adoption, du coup ?
Alors, c'est vrai que la PMA avec donneur est quand même souvent comparé à l'adoption, dans la mesure où l'enfant a des parents légaux qui ne sont pas ses parents biologiques, comme un enfant adopté. Mais la comparaison s'arrête là. Pourquoi ? Parce que l'adoption, c'est une institution qui est au service de l'enfant et qui a pour but de réparer le préjudice subi par un enfant qui est privé par les malheurs et les aléas de la vie d'un de ses parents ou des deux. Et donc l'adoption va tenter de réparer cela en le confiant des parents d'adoption. Alors que la PMA, elle va justement provoquer cette situation. C'est-à-dire qu'on met délibérément de côté le géniteur ou la génitrice ou les deux d'un enfant, de telle manière que cet enfant soit disponible pour réaliser le projet d'autrui. Donc ce que l'adoption répare, la PMA le provoque. Et c'est pourquoi elles ne peuvent absolument pas être comparées. Concrètement, l'adoption n'a jamais privé un enfant de quoi que ce soit, et certainement pas de ses parents d'origine, elle répare le fait qu'il soit privé de ses parents d'origine. Voilà, donc, et ça, la PMA commence par provoquer la privation d'un des parents d'origine pour ensuite pouvoir donner d'autres parents à l'enfant. Donc, c'est vrai que les deux ne sont pas comparables, et notamment, l'adoption ne peut pas servir de prétexte pour légitimer la privation délibérée de son père ou de sa mère.
Et alors justement, pour rebondir sur l'adoption, pendant cette rentrée de septembre 2022, on a eu dans l'actualité la levée de l'anonymat des données. Est-ce que c'est une solution ou pas pour la PMA de lever l'anonymat sur les gamètes des donneurs ?
En tout cas, c'est présenté comme tel. Pendant tous les débats parlementaires, la levée de l'anonymat, c'est-à-dire la possibilité pour l'enfant issu d'un donneur ou de plusieurs donneurs d'avoir accès à l'identité de son donneur à sa majorité s'il le souhaite, cette possibilité a été présentée comme la mesure vraiment de nature à remédier aux difficultés occasionnées par la PMA. Parce qu'en effet, en 1994, avec la première loi de bioéthique, on a voulu croire à l'époque que le lien biologique était vraiment indifférent en matière de filiation, que le père, c'est pas celui qui a fourni le spermatozoïde, c'est celui qui s'occupe de l'enfant. Bon, tout ça, c'est très vrai. Et que la seule chose qui comptait pour les enfants, c'était d'être aimé et d'avoir été désiré. Bon, après ça, quelques 30-40 années plus tard, les premiers enfants commencent à s'exprimer, étant devenus adultes, et ils expliquent que c'est pas si simple, hein. Ils ont tous été aimés et désirés. Mais enfin, être issu de quelqu'un, ça n'est pas indifférent. Et le fait d'être issu d'un donneur était source de souffrance pour beaucoup. Donc, la levée de l'anonymat a été présentée comme la mesure de nature à réparer cette souffrance. Bon, déjà, s'il y a une souffrance à réparer, on peut peut-être s'interroger sur l'opportunité de la susciter, même si on a l'impression de fournir le remède. Bon, mais en plus de ça, malheureusement, la levée de l'anonymat, bon, très franchement, est déjà un progrès en soi, parce que pour la première fois, l'intérêt de l'enfant et ses droits sont pris en compte dans la loi. Ce qui est quand même déjà pas mal, parce qu'avant, l'enfant était vraiment complètement oublié. Mais, malheureusement, la levée de l'anonymat ne pourra pas tout résoudre. C'est-à-dire que, déjà, on va prendre les enfants qui seront issus d'un couple homme-femme, enfin, qui seront issus de PMA pour un couple homme-femme avec donneur. Bon, la perspective de la levée de l'anonymat à la majorité de l'enfant, est-ce qu'elle va simplifier sa vie ? C'est-à-dire que, comment est-ce que l'enfant ne pourrait pas se retrouver au cœur d'un conflit de loyauté entre son père légal qui l'élève et ce donneur qu'il rencontrera un jour ? Enfin, dire, c'est extrêmement compliqué, on met l'enfant dans une situation impossible en réalité. Et puis pour les jeunes qui n'auront pas eu de père, donc né de PMA pour les couples de femmes ou les femmes célibataires, est-ce qu'on peut sérieusement considérer que l'identité de leur géniteur à la majorité est susceptible de remplacer toute une enfance, une adolescence et même toute une vie derrière sans père, sans lignée paternelle ? Bien sûr que ce n'est pas la même chose.
Donc on comprend que tout ça soulève énormément de questions en termes de filiation, notamment du côté du droit.
Oui, et dire que... Enfin, qui a imaginé concrètement comment ça va se passer, la levée de l'anonymat ? Le jeune issu d'un don qui va avoir accès à l'identité de son donneur, qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce qu'il va vouloir rencontrer le donneur ? Qu'est-ce qu'il va lui demander ? Est-ce qu'il va lui demander de l'affection, un héritage, de payer ses études ? Est-ce qu'il va le remercier ? Est-ce qu'il va lui mettre son poing dans la figure ? En fait, très franchement, il y aura tout. Alors, dans certains cas, ça va peut-être apporter des réponses et remédier à certaines souffrances, tant mieux, mais ce sera loin d'être systématique. Il y aura aussi beaucoup de déceptions, de frustrations et d'espoirs qui seront déçus. Bon, ça... Et puis aujourd'hui, en effet, la loi promet aux donneurs qu'il n'y aura pas de filiation. Hein, le code civil est clair. Aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et le donneur. Enfin, cette promesse sera intenable. C'est-à-dire que, imaginons un enfant qui sera issu d'une PMA pour une femme célibataire, arrive à 18 ans sans filiation paternelle, sans père. Il prendra contact avec son donneur, imaginons que celui-ci accepte de le recevoir, que les deux nouent un lien, ça se passe déjà, hein, ça se passe déjà en marge de la loi, par les jeunes, à propos de jeunes qui ont retrouvé l'identité de leur donneur par des petites enquêtes généalogiques qu'ils mènent de leur côté. Bon, si le donneur, l'enfant, tous les deux veulent établir un lien de filiation, on va même imaginer que la mère est d'accord avec ça. On a même déjà vu des cas où la mère a rencontré le donneur de son enfant, et carrément, elle s'est mise avec lui en ménage, voire ils se sont mariés. Donc quand on aura ce genre de famille reconstituée, quel est le juge qui va refuser l'établissement de la paternité du donneur ? Et à partir du moment où c'est fait, au nom de quoi on accepterait pour les uns, on refuserait pour les autres ? Donc en réalité, la loi évacue la question de la filiation en posant de façon péremptoire « aucun lien de filiation ne pourra être établi entre l'enfant et le donneur », mais ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça.
Ça devient compliqué d'être donneur, finalement, aujourd'hui.
La loi ne dit pas toute la vérité, clairement. Mais d'ailleurs, c'est pareil à l'égard des couples ou des couples de femmes ou les couples hommes-femmes ou des femmes célibataires qui se tournent vers la PMA avec donneur. Le fait que cet enfant ne pourra pas rechercher la paternité du donneur est affirmé. Mais encore une fois, c'est une promesse qu'on ne pourra pas tenir. Et donc, les personnes qui recourent à la PMA avec donneur, eh bien, elles peuvent s'attendre à ce qu'en effet, il y ait un donneur potentiellement parent qui, ensuite, fasse partie de leur vie.
Alors, la PMA avec donneur, on a compris que c'était compliqué. Est-ce que la PMA, en tant que telle, pose elle aussi un problème, si c'est une PMA juste pour des couples hommes-femmes ?
Alors, c'est vrai que le projet de loi nous a conduit à, pendant des années, à être un petit peu concentrés sur l'extension de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Et la PMA pour les couples hommes-femmes infertiles, elle n'a pas été discutée. Elle était déjà dans le Code de la santé publique. À vrai dire, elle n'a jamais été discutée. Elle a été adoptée en 1994 sans faire vraiment l'objet de débat. On n'a jamais discuté que des modalités. Donc, jusqu'à quel âge, est-ce qu'on peut recourir à des donneurs, est-ce que les donneurs vont être anonymes, etc. Mais le principe lui-même de la PMA, on n'en a jamais vraiment parlé. Et votre question me donne l'occasion quand même d'attirer l'attention des auditeurs sur quel est le point commun de toutes les PMA. C'est-à-dire qu'il y a la PMA pour les uns, la PMA pour les autres, la PMA avec donneur, la PMA sans donneur, la PMA du vivant des personnes. Est-ce qu'on peut faire des enfants après sa mort? Bon, il y a différentes modalités qui, chacune, posent leur lot de questions. On pourra y revenir si on a le temps. Mais le point commun à toutes ces PMA, c'est tout simplement la dissociation entre la procréation et l'union des personnes. Comme on l'a dit tout à l'heure, la PMA, c'est l'ensemble des techniques qui organise la conception d'un enfant en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Voilà. Et donc cette dissociation de la sexualité et de la procréation, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, c'est que l'union des personnes est remplacée par un acte technique, technologique. C'est-à-dire c'est deux pipettes qui font se rencontrer un spermatozoïde et un ovocyte. C'est une seringue qui injecte le sperme dans le corps d'une femme. Voilà, c'est ça concrètement. Et donc l'enfant se retrouve finalement le résultat d'un acte technologique. Et le Conseil d'État, dans son rapport, a carrément dit « La PMA fait de l'enfant le produit de technologies scientifiques ». Donc quand même, ça mérite de s'interroger en termes de compatibilité avec la dignité humaine. Est-ce que c'est vraiment conforme à la dignité humaine que l'enfant soit ainsi produit? Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est qu'on passe de la procréation humaine à la production humaine. On produit un être humain. Alors évidemment, ce n'est pas du tout ça qui est recherché par les gens, mais c'est ça qui est accepté. Ce n'est pas ce qu'on voulait, mais c'est quand même ça qu'on va faire. Et donc l'enfant, en effet, se retrouve d'une certaine manière le résultat, le produit d'un geste technologique, avec en plus toutes les difficultés ensuite qui vont en résulter, en termes d'embryons congelés, en termes de recours à des donneurs, en termes de sélection des embryons. Bon, mais tout ça, ça vient de ce donné de départ de faire de la procréation humaine, en fait, une production technologique de l'humain. Voilà.
Quoi qu'il en soit, quel que soit le type de PMA, on se retrouve forcément avec des embryons surnuméraires qui vont devoir être congelés. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces embryons?
Alors, il n'y a pas toujours d'embryons surnuméraires, parce que lorsqu'on fait une insémination artificielle, eh bien, l'enfant est conçu dans le corps de la femme. Donc là, il n'y a pas d'embryon in vitro, et donc il n'y a pas d'embryon surnuméraire. En revanche, c'est dans le cadre de la fécondation in vitro que des embryons sont conçus donc, en laboratoire, et pour rentabiliser l'opération, si je puis dire, en 1994, la loi a permis de concevoir plus d'embryons qu'on ne pouvait en implanter. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne savait pas congeler les ovocytes. Et le prélèvement des ovocytes est un processus qui est très lourd, très contraignant et qui présente des risques importants pour les femmes. Et du coup, pour éviter aux femmes les contraintes de prélèvement d'ovocytes à répétition, on a pris l'habitude de prélever plusieurs ovocytes en même temps. Et pour pouvoir les conserver, eh bien, on les fécondait immédiatement, ce qui permettait d'obtenir des embryons qui, eux, étaient beaucoup plus résistants à la congélation. Et donc, la loi a dit... Au vu des connaissances médicales, il est possible de concevoir, de féconder plus d'ovocytes qu'on ne pourra en implanter. Sauf que quelques années plus tard, en fait, on peut aujourd'hui congeler des ovocytes, et donc on pourrait éviter de congeler des embryons, mais les habitudes, les objectifs de rentabilité des équipes qui pratiquent ça depuis longtemps font que, contre le bon sens le plus élémentaire, on continue à fabriquer des embryons surnuméraires.
Et donc ça, c'est autorisé. Et les embryons surnuméraires restent au congélateur longtemps?
Alors, chaque année, les couples qui ont des embryons conservés reçoivent une lettre de l'hôpital, enfin concrètement du centre de conservation des œufs et du sperme, c'est-à-dire les sécos, qui leur demandent quelles sont leurs intentions concernant les embryons congelés. Alors, ils peuvent répondre soit qu'ils maintiennent leur projet parental et on les garde, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'intention d'implanter ces embryons, soit ils font part de leur absence de projet parental, et à ce compte-là, il y a plusieurs possibilités. Soit les embryons sont détruits, soit ils sont donnés par le couple à la recherche, donc ils vont être utilisés pour la recherche, et donc concrètement, ils vont être détruits, mais utilisés pour la recherche. Ou alors, le couple peut consentir à ce que les embryons soient accueillis par un autre couple. Un couple lui-même en processus de PMA qui pourra accueillir les embryons surnuméraires d'un autre couple.
Par rapport au choix de ces embryons, parce que si on en a plusieurs, il va bien falloir en choisir un. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'eugénisme, finalement, puisqu'on va devoir quand même poser quelques conditions, ou est-ce que c'est exagéré ?
Alors, c'est sûr que quand on a 12 embryons disponibles et qu'on va en implanter un, faudrait vraiment être complètement idiot pour prendre n'importe lequel. Surtout s'il y a des maladies génétiques dans la famille ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'on va sélectionner les embryons qui vont être implantés et ceux qui ne le seront pas. Et donc, il y a bien un lien entre la PMA et la sélection. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là, parce que même quand on recourt à un donneur, bah là aussi, les donneurs sont sélectionnés, on ne prend pas n'importe qui comme donneur. Et quand on sélectionne des donneurs, quand on sélectionne des embryons, on sélectionne toujours sur les mêmes critères. Absence de telle ou telle maladie, telle ou telle caractéristique qui sont recherchées. Quand on sélectionne des embryons, on prend ceux qui semblent au moins dans le meilleur état, en meilleure forme, avec les meilleures promesses. Bon, autant qu'on le peut, hein, parce qu'il y a aussi une marge d'erreur. Bon, donc, il y a un lien avec l'eugénisme. Et d'ailleurs, c'est Jacques Testard qui sait de quoi il parle, hein, parce que je rappelle qu'avec Friedman, ils étaient les deux premiers médecins à avoir fait la première fécondation in vitro en France, en 1982. Et donc, Jacques Testard explique que le lien entre la PMA et l'eugénisme, en fait, il est intrinsèque. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, la PMA nous conduit à l'eugénisme, c'est-à-dire à la sélection des personnes. Pourquoi ? Tout simplement parce que la PMA suscite des situations de choix. Voilà. Les situations qu'on a évoquées, le choix d'un donneur, le choix d'un embryon. Et le choix des gamètes, quand on a des gamètes également.
On a le choix aussi au niveau du donneur. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner un donneur plutôt qu'un autre,
Alors,
c'est du hasard.
En France, aujourd'hui, les demandeurs à la PMA ne sélectionnent pas eux-mêmes leur donneur. En revanche, les centres qui reçoivent les candidats au don, eux, et bien sûr, ils sélectionnent. C'est-à-dire qu'il y a un dossier médical du donneur, et n'importe qui ne peut pas être donneur. Donc la sélection, elle se fait là. Mais Jacques Testard explique qu'à partir du moment où on choisit, eh bien alors forcément on sélectionne. Et que donc ça conduit. Et puis comme la technologie offre des capacités de sélection de plus en plus fines et de plus en plus performantes, bah, la tentation est très forte. Et d'ailleurs, en France, c'est encore assez contrôlé, mais les verrous sautent les uns après les autres, comme on l'a vu déjà avec la loi de 2021. Et l'exemple de ce qui se passe à l'étranger est quand même très instructif. C'est que, de plus en plus, le choix s'élargit pour choisir les embryons. C'est-à-dire que dans les cliniques de PMA à l'étranger, on peut choisir le sexe de l'enfant, on peut sélectionner un enfant pour éviter un strabisme en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, on peut sélectionner les embryons pour choisir un garçon ou une fille. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a un couple de femmes qui a intenté un procès à la clinique de PMA parce qu'elles voulaient absolument des filles, et des filles uniquement. Et elles ont eu un garçon, parce qu'en fait, il y a eu une erreur de sélection des embryons. Voilà. Donc, le choix, la sélection des enfants, elle est à portée de la main. La technologie en donne la possibilité. Et c'est très difficile de ne pas mettre en œuvre cette possibilité une fois qu'elle se présente. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jacques Testard explique que le transhumanisme avec les modifications génétiques, tout ça, ça ne marchera jamais, c'est beaucoup trop risqué. En fait, l'avenir du transhumanisme, c'est la PMA. C'est beaucoup plus sûr de sélectionner l'embryon qui vous convient que d'essayer de réparer celui qui ne convient pas. Et donc voilà, l'avenir du marché, du business et du transhumanisme, en fait, il est là, c'est dans la sélection des embryons.
Alors c'est assez effrayant tout ça. Si on revient au départ à l'intention première de la PMA, c'est quand même au départ pour les couples stériles qui vivent une vraie souffrance de ne pas avoir d'enfants. Ça, on peut la comprendre, bien sûr. Pour eux, la PMA est un peu vue comme la seule solution. Est-ce qu'il y a des alternatives ?
Alors, c'est vrai qu'au début, justement, la société s'est engouffré dans la procréation médicalement assistée, complètement ébloui par la promesse des enfants tant désirés, et ce qui a complètement occulté justement toutes les difficultés liées à la PMA en soi et les difficultés pratiques ensuite qu'elle allait occasionner. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout anticipé. Alors, il y a des couples qui se retrouvent avec des embryons congelés qui disent, au fait, comment est-ce qu'on a accepté de congeler des embryons? C'est-à-dire que sur le coup, ils ont dit oui à tout parce qu'ils voulaient absolument avoir un enfant. Puis après, tout à coup, on se rend compte des difficultés. C'est pareil, les enfants avec donneurs, ceux qui recherchent leur donneur, en général, ils sont soutenus par leurs parents. Mais nous, quand on a recouru à un donneur, on n'aurait jamais imaginé que ça allait poser des difficultés à notre enfant. Bon, franchement, c'était quand même prévisible, mais eux, ils ne l'ont pas anticipé. Voilà, donc, à l'origine, on a voulu voir la promesse de remédier à l'infertilité. Et en fait, on voit où on en est aujourd'hui. Hein, et d'autant plus que, en effet, ce n'est pas la seule manière de remédier à l'infertilité. Il existe des méthodes de restauration naturelle de la fertilité, hein, des méthodes alternatives. Par exemple, les naprotechnologies, mais ce sont pas les seules méthodes qui sont proposées. Et cette piste-là, eh bien, elle n'est pas du tout explorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
surtout, elle est très peu connue. La naprotechnologie, personne n'en parle.
Alors, personne n'en parle et personne ne la finance en plus. Il n'y a pas de fonds publics, il n'y a pas de crédit là-dessus. Les naprotechnologies, tout simplement, c'est un ensemble de techniques qui cherche à restaurer la fertilité au sein du couple en essayant de mettre vraiment en donnant de l'importance à tous les aspects du cycle et tous les aspects qui impliquent la fertilité possible d'un couple et donc à part une analyse très fine et en essayant de remédier à tous les aspects pour favoriser les chances de restaurer la fertilité et
ça marche.
Oui, ça marche. En tout cas, les taux de réussite sont plus ou moins sont largement équivalents à ceux de la PMA. Mais attention, ce n'est pas les naprotechnologies permettent statistiquement d'avoir des enfants avec des taux de réussite supérieurs à la PMA. Mais il y a des cas que la PMA permet de contourner que les napros ne permettront pas eux de restaurer, parce qu'il s'agit de restaurer la fertilité alors que la PMA contourne. Mais en attendant, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent engagées dans des processus de PMA sans qu'on leur ait jamais proposé une alternative. C'est-à-dire qu'une femme qui se retrouve chez son gynécologue pour des problèmes de fertilité se retrouve tout de suite, on lui propose tout de suite une insémination artificielle ou une fécondation in vitro, mais elle n'entendra jamais, enfin, en tout cas très rarement parler, des autres possibilités.
Donc pour un couple, en tout cas d'hommes, avec un homme et une femme, la naprotechnologie, ça peut être une vraie alternative à la PMA.
Alors oui, en tout cas, ça peut être une vraie possibilité de restaurer sa fertilité, la fertilité au sein du couple, tout à fait.
On en parle un peu moins, mais les parcours de PMA, certaines femmes rapportent que c'est quand même assez difficile, hein, qu'il peut y avoir des fausses couches et il peut y avoir pas mal de difficultés à rencontrer aussi.
Alors oui, en plus, ça c'est vrai que l'information qui est donnée... Alors moi, je ne dis pas que l'information est mal donnée, mais en tout cas, c'est sûr que visiblement, elle est mal comprise parce qu'il y a énormément de témoignages de gens qui se retrouvent au cœur de processus de PMA et qui disent découvrir les difficultés. Alors, est-ce qu'ils ont été informés avant? Ils n'ont pas su comprendre, ils n'ont pas voulu comprendre, ils se sont dit « c'est pas grave, on y va quand même », je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que l'information n'est pas complète. Vous voyez, par exemple, les processus de fécondation in vitro font courir des risques médicaux qui sont bien plus importants pour les enfants que pour des naissances avec des conceptions naturelles. Et ça, pratiquement personne ne le sait.
Alors, on va vite terminer. Juste une dernière question. Maintenant que la loi est votée, qu'est-ce qu'on fait? Puisque c'est quand même la loi, il va bien falloir l'accepter. Est-ce qu'on s'incline?
Alors, la loi est votée, mais la loi ne retire à personne sa liberté et sa responsabilité. Donc, c'est pas parce que la loi permet à une femme célibataire, à un couple de femmes ou à un couple homme-femme de se concevoir un enfant d'un donneur qui sera privé de sa filiation biologique, etc. Bon, c'est pas parce que la loi permet tout ça que quiconque est obligé de le faire. Et donc, écoutez, le but d'une émission comme celle-ci, c'est de contribuer. Justement, c'est d'autant plus nécessaire que la loi aujourd'hui permet la PMA de façon très large et fait miroiter justement des enfants par ce moyen sans informer suffisamment sur les risques et les difficultés, qu'il est important de se renseigner, de se former et de savoir exactement ce que l'on fait et dans quoi est-ce qu'on s'engage. Et Le jour où les enfants demanderont des comptes de la façon dont ils sont venus au monde, je ne pense pas que la loi me disait ce que je pouvais le faire pèsera bien lourd. Voilà, donc à chacun de prendre ses responsabilités et j'espère qu'une émission comme celle-ci contribue à y aider.
Merci beaucoup, Aude Mirkovic. Donc, je rappelle que vous êtes directrice juridique de l'association Juriste pour l'enfance et que vous êtes maître de conférence en droit privé.
Aude Mirkovic et Marguerite Duchafaud, nous avons reçu une question par SMS, une question de Francesca. Bonjour à l'équipe de Radio Maria. Aujourd'hui, le monde est connecté, réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des vidéos qui peuvent informer le monde? Parfois, on pêche par manque de connaissances. Merci. Et c'est signé Francesca.
Merci Francesca pour cette bonne question. Donc oui, nous avons, il y a des vidéos sur Internet. On peut trouver beaucoup de ressources pour se former sur ces sujets, pour s'informer, pour avoir des éléments de discernement, puis ensuite pouvoir se forger une opinion, notamment sur le site de Juriste pour l'enfance, et puis directement sur la chaîne YouTube de Juriste pour l'enfance. Vous avez de nombreuses vidéos de bioéthique. Il y a une playlist bioéthique. Et là, vous allez avoir de nombreuses émissions de radio ou des conférences filmées sur ces sujets qui reprennent tout ce qui a été évoqué dans cette émission et d'autres sujets également.
Et vous pouvez retrouver les fruits du colloque, des différents colloques qui ont été organisés par Juriste pour l'enfance. Je vous invite vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter, YouTube, avec les chaînes YouTube, les vidéos, tout ça. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet.
Alors, nous avons reçu également un message d'Angèle. Je pense que c'est une question, mais c'est plus un constat. Bonjour, moi, ce qui me choque, c'est que l'on congèle des êtres vivants. Que l'on soit croyant ou pas, cela me paraît logique de le voir comme cela. Comment peut-on faire comprendre cela en union de prière? Et c'est signé Angèle.
Ça, c'est vrai que la congélation de petits êtres humains, même en vue de leur future naissance, est quelque chose dont il est absolument incompréhensible qu'on ait pu légaliser ça sans se poser la moindre question. Il faut quand même visualiser ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des êtres vivants, des êtres humains vivants, qui en plus de ça, ce n'est pas un critère ontologique, mais enfin pour le législateur c'est un critère, qui ont un projet parental, puisqu'ils sont congelés en vue d'une future PMA, et leur développement est suspendu dans le temps comme ça pendant parfois plusieurs années. Donc dans une fratrie, on peut avoir 3 enfants, qui vont avoir par exemple 12 ans, 7 ans et 4 ans, alors qu'en fait, ils ont tous été conçus le même jour. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce que ça peut signifier pour les enfants? L'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, aux États-Unis, il y a un enfant qui est né, qui était un embryon congelé depuis 25 ans. Alors, sa mère a dit à la presse que c'était très drôle, parce que si sa fille était née à la bonne époque, enfin à l'époque où elle a été conçue, en fait, elles auraient pu être copines, parce qu'elles avaient le même âge en réalité. Mais comment est-ce qu'un enfant peut se situer dans la chaîne des générations et dans le temps avec des décalages comme ça? Moi, personnellement, je suis convaincue, et Juriste pour l'enfance fera ce qu'il faut pour ça, que dans quelques années, la congélation de ces embryons, ce sera qualifié par le droit de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et franchement, on pourrait... Encore une fois, au début, on n'a pas voulu voir les problèmes, on était éblouis par les promesses de la PMA, mais enfin, franchement, maintenant, de continuer à congeler des embryons, avec le recul qu'on a, c'est quand même vraiment problématique. Et là, notre société, en effet, n'a pas à être fière de ça. Et ça, c'est vrai qu'au minimum, il faudrait arrêter de congeler des embryons.
Nous avons reçu un message de Christine. Bonjour, merci pour votre émission, que malheureusement, je n'ai pu entendre que la fin. A-t-on des études qui montrent que les enfants conçus par PMA souffrent plus de troubles psychologiques comme l'autisme ou autre? Merci, et c'est signé Christine.
Alors oui, en effet, il y a des études qui sont faites sur les enfants nés de PMA. Mais en plus de ça, bon alors les sources, je ne peux pas les citer à l'antenne parce que ce serait vraiment fastidieux. Mais vous pouvez nous écrire sur le site de Juriste pour l'enfance si vous voulez qu'on vous les envoie. Et puis vous pouvez aussi voir dans le livre de Olivia Sarton, qui s'appelle « PMA, ce qu'on ne vous dit pas », toutes les références sont dans cet ouvrage. Donc, il y a des études qui sont très intéressantes parce qu'elles ont été menées par les cliniques étrangères, donc australiennes, américaines en général, de PMA, mais aussi danoises, de différentes nationalités. Ce sont les cliniques de la fertilité qui font des études sur les enfants nés de leur clinique justement pour améliorer leurs prestations et pour pouvoir ensuite attirer le client en disant « chez nous, voilà, on a des très bons résultats, etc. » Et donc, ces études relèvent en effet un taux d'autisme qui est bien supérieur chez les jeunes issus de PMA par rapport au reste de la population. Alors attention, ça ne veut pas dire du tout que tous les jeunes nés de PMA représentent des troubles du spectre autistique, bien sûr, mais que la récurrence est plus élevée, 4 fois plus élevée que dans la population générale.
Alors peut-être une dernière question concernant donc les enfants qui sont nés de PMA avec donneur. Donc ces enfants vont grandir, devenir adultes, rencontrer des gens et tomber amoureux, vouloir fonder une famille, se marier. Qu'est-ce qui se passe si deux adultes se rencontrent, se mettent en couple pour fonder une famille et sont tous les deux issus de PMA avec donneur? Quels moyens ont-ils de savoir qu'ils ne sont pas finalement demi-frères et demi-sœurs?
Alors ça, c'est une très bonne question. La question de la consanguinité entre les jeunes issus de dons. Pendant des années, on a balayé ce problème d'un revers de la main en disant que le risque statistique que des jeunes issus d'un même donneur se croisent était statistiquement nul. Vu la population, en fait, ils n'avaient aucune chance de se croiser. Bon, cela dit, il paraît que dans l'inconscient des personnes concernées, c'est quelque chose qui est très présent et qui est même omniprésent. D'ailleurs, c'est un petit peu la même chose aussi chez les personnes qui sont nées sous X, qui explique, voilà, quand je me promène dans la rue, je vois un homme qui aurait à peu près... je m'identifie un peu, je me dis c'est peut-être mon père, je sais très bien que c'est pas lui, mais je peux pas m'empêcher d'y penser. Bon bah, chez les jeunes issus de PMA, c'est pareil. Surtout que en plus, ces jeunes se sont réunis dans des associations de personnes issues des dons. Et là, je peux vous dire qu'ils ont fait complètement exploser les risques statistiques. Et du coup, ils ont fait des tests, beaucoup d'entre eux, des tests génétiques qui ont révélé le fait qu'ils étaient demi-frères et sœurs génétiques pour beaucoup. Donc, il y en a qui se connaissent et il y a notamment un couple assez médiatique, assez Arthur et Audrey Kermavelzen, qui se sont rencontrés dans l'association PMA Anonyme, qui se sont mariés et eux, ils ont saisi le Conseil d'État pour engager la responsabilité de l'État français du fait de leur conception par donneur et de l'anonymat qui leur était opposé, qui porte atteinte à leurs droits. Donc le Conseil d'État les a envoyés balader alors que pourtant ils ont raison. Ils sont victimes d'une injustice et un jour ou l'autre, le droit le reconnaîtra. Mais grâce à leur procès, le Conseil d'État a dit que ce que prévoit la loi, c'est pour des raisons médicales, les médecins peuvent avoir accès à des données non identifiantes concernant les donneurs et que un risque de consanguinité de deux personnes qui veulent se marier peut être considéré comme un risque médical. Donc, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne peuvent rien faire, mais par médecin interposé, ils peuvent demander à vérifier qu'ils ne sont pas issus du même donneur. Donc, ce qui est hyper romantique, n'est-ce pas, dans une période de fiançailles, mais enfin, c'est possible. Alors, dans l'avenir, les jeunes auront accès à l'identité du donneur s'ils le souhaitent, mais enfin, avec la généralisation des donneurs et du recours aux dons, c'est sûr que ce risque et cette anxiété qui visiblement est très présente chez les personnes concernées ne fera que croître.
Eh bien, merci beaucoup Aude Mirkovic et Marguerite Duchafaud pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui pour faire un point suite à l'adoption de la loi de bioéthique. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agissait de l'émission « Défendons nos enfants » avec l'association Juristes pour l'enfance. Merci beaucoup et puis à très bientôt.
À bientôt, merci à vous.
À bientôt, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission « Défendons nos enfants » avec l'association Juristes pour l'enfance, émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Aude Mirkovic et Marguerite Duchafaud nous ont parlé de la loi de bioéthique en faisant un point après un an de l'adoption de cette loi.